Vous écoutez France Culture.
Ce sont vraiment des lendemains qui chantent ce soir dans le rendez-vous. En direct et en public au Palais de Tokyo à Paris, il sera question de grève, d'exploitateurs, d'invisibles, de féministes, de documentaires et même de Baba Yaga. Avec Thérèse Claire au centre du Festival de films de femmes de Créteil, portrait d'une féministe libertaire activiste qui fait l'objet d'un documentaire, portrait, rebelle, ménopause, tout est dit, Claire Maillot.
Retour sur la trajectoire originale d'une féministe que mai 68 a fait renaître en lui livrant le mot d'ordre de ses combats, l'intimité et politique.
La chronique du Thomas Claire du vendredi. Thomas Claire, c'est son neveu. Il mettra ce soir à son programme la revue Femmes Actuelles. Nous recevrons aussi Denis Gerbrand qui a signé On a grévé, un documentaire sur une grève de femmes de chambre exploitées dans un hôtel près du périphérique. Un cinéma du réel qui ne fait pas l'économie de son réalisateur, pris à partie par les personnages qu'il filme. Benoît Lagan.
L'occasion pour cette figure majeure du cinéma du réel en France de poursuivre une œuvre qui s'attache à filmer les moments charnières de la vie de ses personnages. Ici, des femmes de chambre en plein apprentissage de leur lutte sociale.
Et parce que nous sommes au Palais de Tokyo, nous ouvrirons comme chaque vendredi en musique la session Nosfell ce soir, Mathieu Conquet.
Et en français, hein, puisque le chanteur qu'on connaît notamment pour son univers fantastique et la langue qu'il a inventée pour la chanter, mais renonce provisoirement au Clocobelt pour chanter donc en français un amour massif.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Xavier Martinet qui prend votre place, Mathieu Conquet. Il revient ce soir sur le féminisme culturel. Puis on retrouvera bien sûr les brèves de Benoît Lagan. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Entre les débats sur la théorie du genre et les festivals consacrés aux femmes en ce moment, la présence du féminisme dans la culture se conforte. Il y a plus de 10 ans, l'université tentait de définir un féminisme culturel. Aujourd'hui, la féminité semble installée dans le paysage culturel. Installée, mais est-elle toujours combative?
En tout cas, c'est vrai que du côté des festivals qui ont lieu en France en ce moment, on ne peut s'empêcher de noter une certaine installation dans le temps, puisque c'est déjà la 36e édition du Festival international du film de femmes de Créteil. C'est aussi la 17e pour le festival musical Les Femmes s'en mêlent, un festival bien étendu d'ailleurs dans l'espace. Il est présent dans 38 villes maintenant. Ce festival qui était au début mal vu, hein, certains parlaient d'un ghetto de filles, me disait au téléphone son directeur Stéphane Amiel. Et bien aujourd'hui, on le croirait plutôt en vue ou confortable. Il était au Centre Pompidou, il sera au 104 ce soir à Paris. Mais il est en fait toujours fragile, il a un budget faible, 150 000 euros, sans subvention publique sauf celle de la mairie de Paris, et puis surtout et peut-être des artistes et une tendance musicale féminine qui court de plus en plus le risque de la récupération. Alors, dit Stéphane Amiel, on est devenu militant, oui, mais par choix esthétique.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 5 ans, il y avait de plus en plus d'artistes féminines partout. Il y a même certains festivals, je pense aux Arocuptibles, qui ont fait une soirée spéciale filles. Il y a eu une explosion comme ça. Et je me suis dit, le pari est gagné, il y a de plus en plus de filles. Mais on portait souvent l'attention sur les mêmes, sur quelques-unes. Par exemple, quand on parle de musique féminine, dans les musiques indées, indépendantes, pop-rock et tout ça, il y a la famille PJ Harvey, il y a la famille Björk, il y a la famille Kate Bush. Et à chaque fois, on nous ressort 2-3 noms, tout ça. Moi, j'ai décidé cette année d'essayer d'avoir aucune référence. Après, je me rends compte que les artistes ont des opinions très engagées ou pas du tout. Il y en a que ça fait rigoler d'être genre un festival que de filles. C'est-à-dire qu'on ne cantonne pas, on peut avoir une fille ultra féminine, ultra sexy, comme Dominique Humilic au festival. C'est une mise en scène de féminité exacerbée. Et on peut avoir des artistes comme Liz Green, qui est une folkeuse de Manchester, qui est là plutôt avec son humour décalé, son esprit complètement surréaliste. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais arrêter le festival et je pense que ça a de plus en plus de sens de le faire.
Présent sur scène donc, mais aussi dans les livres, car l'édition aussi s'empare soudain du féminisme cette année 2014.
Et oui, là, avec le premier salon qui s'appelle Lettres au féminin et qui commence aujourd'hui au Salon du Livre de Paris, avec bien sûr des éditrices et des femmes écrivains et des débats. Un événement aussi qui fait peut-être écho à un mouvement plus large anglo-saxon commencé il y a quelques années, là, pour promouvoir les écrivains et les critiques féminines dans la presse. En Grande-Bretagne, par exemple, cette année, l'écrivain Joanna Walsh tente de faire déclarer 2014, je la cite, année de la littérature féminine. Alors on a vu un féminisme esthétique, disons un féminisme aussi plus militant, voire plus politique. En France, par exemple, l'éditeur H&O s'est récemment lancé dans une collection féministe au Salon du Livre. C'était juste l'année dernière, en 2013. Alors il était spécialisé dans la littérature gay. Il s'est ensuite diversifié vers l'athéisme en 2011. Et puis le féminisme est venu comme un prolongement naturel. Là, je cite sa directrice de collection que j'ai jointe au téléphone, l'écrivain québécoise Jemila Benhabib. Alors depuis un an, ils ont sorti deux livres, un de l'éditrice sur les femmes dans les printemps arabes, et puis une histoire du clitoris, là, écrite par un homme. Écoutez Jemila Benhabib.
C'est vraiment très très large, hein, entre les questions philosophiques, hein, qui nous ont toujours préoccupés, à savoir cette biologie du féminin, cette biologie du masculin, ce cantonnement aussi social du féminin. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui sont inépuisables. Mais certes, les questions d'actualité sont très intéressantes, car moi, je suis d'abord et avant tout une journaliste de terrain, un reporter. Mon premier livre, donc « L'automne des femmes arabes », a connu un bon succès au Québec. Il a été primé. Et le livre aussi, donc, concernant la question du clitoris, a connu un bon succès en France. Donc nous allons élargir, si vous voulez, à d'autres questions qui ne sont pas traitées forcément dans les autres grandes maisons d'édition et ainsi de suite.
Ainsi de suite. Et pour 2014, ce seront donc un livre d'une Iranienne sur la jeunesse de son pays et l'ouvrage principal de Jemila Benhabib. Il s'appelle « À contre-courant ». Je précise que Jemila Benhabib se présente également comme députée aux élections générales du Québec le 7 avril.
Merci Xavier Martinet. Peut-être une réaction de votre part, Thérèse Claire, vous, féministe et libertaire.
Non, à 86 ans, j'aime beaucoup qu'on parle du clitoris, parce qu'il est évident que nous, les vieilles, ça nous sauve, parce que, c'est éternel, c'est sans fin, etc., etc. Je trouve que les hommes ne sont pas très gâtés dans leur vieillesse, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup misé sur leur profession, sur la vie professionnelle. D'un seul coup, ils se retrouvent en retraite, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et deuxièmement, leur sacro-sainte virilité est aussi quelque peu, nous dirons, hésitante, je ne sais pas trop quel mot employer.
Hésitante, donc, c'est pas mal.
Je trouve qu'ils sont pas gâtés, tandis que nous, ce petit trésor est toujours d'actualité, si je peux dire, jusqu'à la mort. Et je me réjouis d'être une femme et une féministe. Alors je vous en prie, le mot féminité, vous l'avez dit.
C'est vrai.
Alors,
attention. C'était pour vous faire réagir.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez entendu quand j'ai dit féminité?
J'ai entendu féminité. Je trouve que vous adorez, vous les hommes, les femmes qui sont féminines.
Oui.
Alors, je vous en prie, ouvrez votre esprit aux féministes. C'est des vieilles garces, c'est vrai. Mais elles veulent changer le monde. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on n'y a pas vraiment réussi. Mais le voyage a été si beau.
Tout de suite, les brèves, Benoît Lagane. Et pour ouvrir ces brèves et compléter l'information donnée tout à l'heure par Stanislas Vazak, direction le Carreau du Temple, ce nouveau lieu pluridisciplinaire de la ville de Paris, récemment rénové, dont l'ouverture est prévue le 25 avril, où se sont installés à la mi-journée les intermittents manifestants. Après les manifestations d'hier et la nuit passée à l'Opéra Garnier, les intermittents ont quitté les lieux comme ils s'y étaient engagés auprès du ministère de la Culture et de la direction de l'Opéra. Donc après une assemblée générale, ils ont décidé de s'installer plusieurs jours au Carreau du Temple afin, disent-ils, de maintenir la pression.
Et pendant ce temps-là, au Théâtre de la Ville, à Paris.
Eh bien, après avoir présenté hier en Avignon les grandes lignes de la prochaine édition du Festival de Théâtre, Olivier Py, le nouveau directeur du festival, a présenté à la mi-journée à Paris, dans un théâtre de la ville rempli à craquer, son projet pour la prochaine édition. Et pour sa première programmation, Olivier Py a pensé un festival en rupture par rapport aux saisons précédentes, avec un but avoué, faire advenir une nouvelle génération, notamment de metteurs en scène, jamais venus en Avignon.
Une programmation pensée en trois actes, enfin trois actes qu'on a définis nous-mêmes.
Voilà, donc un premier geste, Olivier Py souhaite réinscrire le festival dans la démarche artistique et politique de Jean Vilar. Cela passera notamment par la création d'un Prince de Hambourg de Kleist, pièce qui avait été montée par Jean Vilar avec Gérard Philippe dans les années 50. Un deuxième axe, prendre en charge la crise européenne, mais par un recentrage sur le bassin méditerranéen, avec notamment des créateurs italiens ou grecs, alors que l'équipe précédente privilégiait un axe Est-Ouest, avec notamment la présence de théâtre allemand et flamand. Et puis un troisième point, une politique menée auprès des publics, en particulier en termes tarifaires, mais aussi une ouverture spécialement portée au jeune public. Pour terminer, la petite histoire du soir, mais elle m'a l'air bien longue.
Non, elle n'est pas longue. Ce soir, Laurent, la petite histoire d'une voix pénétrable qui a fait son apparition sur tous les sites d'information et fils de dépêche. C'est dire son importance. Ou comment une séquence vidéo d'une émission de télécrochet fait littéralement le buzz. Je vous raconte. Tout commence mercredi soir quand la deuxième chaîne publique italienne, Rai Due, donc, diffuse un nouveau numéro de l'émission The Voice. Alors vous savez, hein, le télécrochet où un jury sélectionne la plus belle voix du moment. Eh bien mercredi, lors de ce que l'on appelle dans l'émission les castings à l'aveugle, c'est-à-dire le temps du concours où les candidats ne sont sélectionnés que sur leur qualité vocale, eh bien les Italiens ont découvert la voix de Christina. Mais voilà, au fil de l'interprétation de No One, la chanson d'Alicia Keys, Christina fait un tel effet que tous les jurés ont buzzé sur elle. Je vous explique, Laurent. Les jurés de l'émission sont installés dans de grands fauteuils rouges, un peu comme le mien, et tournent le dos à la candidate qui chante, elle, devant un public en transe.
C'est ce que vous êtes en train de faire.
Voilà, je me mets en scène au Palais de Tokyo. Et le premier juré conquis pompe alors sur son buzzer. Le fauteuil pivote alors à 180 degrés.
Ce type est dingue. Et le jury... Il n'y a pas d'autre explication.
Et le jury découvre non pas Nosfell, mais le physique de la voix qu'il a sélectionné. Et mercredi dernier, le premier à avoir buzzé est un juré diablotin, le rappeur tatoué G-Ax. Et stupéfait, le juré découvre alors le visage de la Vierge Christina. Et son jeu de scène très R&B, car oui, Christina est une sœur, une Sicilienne de 25 ans, membre de la congrégation des Ursulines, qui a donc emprunté la voix de The Voice pour faire entendre la voix du Seigneur. Christina a déclaré à la Stampa « J'ai épousé Jésus, mais la musique est une passion que je peux partager. Elle me permet de parler de Dieu de la façon la plus belle que je connaisse. » Moralité, Laurent, une sœur qui buzz, c'est le moderne pape François qui va être content.
Réaction à ce que l'on vient d'entendre. Thérèse Claire, je vous voyais rire à cette annonce.
Oui, je rire parce que de mon temps, vraiment, là, je suis très, très vieille. On a une Dominique qui avait fait une chanson absolument superbe, qui est religieuse, effectivement, que Dominique, nique, nique. Il est évident que ça pouvait prêter à confusion, mais non, elle était dans les voies du Seigneur.
Elle s'est suicidée quand même. Elle s'est suicidée quand même à la fin.
Elle s'est suicidée, oui. Elles ont eu une vie assez triste parce que la congrégation avait récupéré tous les royalties qu'elles ont gagnées avec ce qu'elles chantaient. Et elles sont mortes dans la misère. Et elles vivaient avec une femme par-dessus le marché. L'horreur. et elles s'en sont suicidées, oui, effectivement. Mais Dominique Nicenic a laissé un souvenir impérissable.
Denis Garbrandt, peut-être un mot sur le Palais de Tokyo, car c'est un lieu que vous connaissez bien, ça vous ramène même à vos débuts, puisqu'en 77, ici, vous avez accroché votre première exposition photographique. Quelle était la nature de cette exposition?
C'était un travail que j'avais fait pendant 6 mois sur le 15e arrondissement. Pour vous dire comme ça vite fait, quand je suis sorti de l'IDEC, j'étais un peu terrifié par le milieu des professionnels de la profession. Et je me suis acheté un Leica, qui est un bon appareil photo. J'ai plongé dans le métro pendant plusieurs mois. Et puis après le Festival d'automne, j'ai rencontré quelqu'un au Festival d'automne qui m'a proposé de faire ce travail. Donc j'ai fait cette expo dans des conditions assez difficiles, qui ressemblent d'ailleurs... Chaque fois qu'on finit un travail, c'est toujours assez infernal. Donc c'était assez infernal. Et puis j'ai rencontré un jeune critique qui venait de rentrer au Monde et qui s'appelait Hervé Guibert.
Et c'est lui qui a chroniqué justement cette première exposition.
Voilà.
Ça a bien commencé pour vous.
Le rendez-vous. 10h. La session.
En direct du Palais Tokyo, on ouvre toujours en musique. C'est notre petit rituel à nous, Mathieu Conquet. Ce soir, voilà. Nosfell.
Nosfell, un chanteur créateur, est apparu il y a à peu près 10 ans, tout juste, avec une signature immédiate, hein, une voix qui est capable de passer des graves très rocailleux à des sommets d'aigus. Tout un univers fantastique avec sa mythologie, sa géographie, l'archipel de Clocochasia, dont la carte est d'ailleurs tatouée sur une partie de son dos. Ça, je vous donne les secrets de fabrication. Et puis, pour chanter ce monde personnel, une langue qu'il avait avez inventé, qu'il est le seul à parler, le Clocobelt, structuré hein, avec graphème, phonème, qui a même fait l'objet d'études très sérieuses, cette langue. Or, cette langue, il y renonce pour ce dernier album qui vient de paraître. Enfin, je dis il y renonce, c'est pas tout à fait vrai. Il y a la première et la dernière chanson qui sont en Clocobelt, mais le reste, tout le reste est en français, ce qui était une ou deux fois de temps en temps. Bah, là, c'est presque tout en français pour ce disque Amour Massif. Toujours à l'œuvre, en revanche, la qualité mutante. Hein, on passe du rock à des parties très lyriques et tendres, comme le morceau qu'on va entendre, Dans les chambres fantômes. Il est accompagné Nosfell de Thibaut Frisoni à la guitare acoustique et c'est Donia Bereri au synthé. C'est à vous, Nosfell.
Toujours, je t'ai revu dans des chambres fantômes. Lorsque je m'allongeais, je te voyais passer. Dans ta robe serrée, l'air de chercher.
Nosfell en direct du Palais de Tokyo sur France Culture. Vous serez en concert mercredi prochain à Nosfell à la Maroquinerie. Il paraît que c'est complet. Donc il y a une session de rattrapage de 12 novembre au Trianon. Ça, c'est pour Paris. Il y aura le 5 avril à la Défense pour le Festival Chorus. Le 25 au Printemps de Bourges, ce sera au théâtre Jacques Coeur. Je le disais en vous présentant, c'est un disque de rupture puisque non seulement vous abandonnez presque la langue que vous avez inventée au profit du français, puis en plus, vous êtes détaché du musicien avec qui vous travaillez habituellement, Pierre Le Bourgeois. Là, vous travaillez presque en votre... Enfin, en tout cas, vous arrangez vous-même vos morceaux. Mmh. Cette rupture, elle a ouvert quelle perspective pour vous, Nosfell ?
Alors, plein de questions. Oui, Pierre Le Bourgeois a décidé de ne pas être sur le disque. Donc, j'ai travaillé sur les arrangements, mais je n'ai pas travaillé tout seul. J'ai une bonne équipe de musiciens qui m'ont accompagné sur le disque.
Pourquoi avoir être en rupture avec la langue que vous aviez ?
Parce que j'avais prévu de faire un triptyque. Le triptyque est fait. J'ai eu l'opportunité aussi de faire cet opéra qui est le Lacovelli, dans lequel je résous une forme d'équation narrative, puisque le triptyque que constituent les trois albums précédents était une forme de tambouille un peu syncrétique comme ça, qui mélangeait plusieurs sons, plusieurs histoires. Et dans cet opéra, cet opéra me permettait de résoudre une forme d'équation. Et en même temps, j'avais déjà quand même fait quelques tentatives. Donc dans ce disque-là, je voulais tenter de peaufiner des choses. Dans le deuxième album, j'écris deux petites chansons en français. J'écris déjà des chansons en anglais. Et ce disque-là me permettait était comme une sorte de sas de décompression, ce qui explique un peu d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que le premier morceau et le dernier morceau soient dans cette langue, un peu comme une parenthèse.
Et vocalement, qu'est-ce que ça change, par exemple, de passer au français et de ne plus être dans le Clocobel, cette langue que
Alors,
vous avez inventée ?
Le français, c'est ma langue maternelle, donc naturellement, pour moi, c'est une forme de mise à nu. C'est aussi une recherche de verticalité, une recherche aussi de... C'est peut-être la volonté d'être un petit peu moins expressionniste que ce que me proposait aussi le Clocobet.
Plutôt une langue paternelle.
Qui était une langue paternelle.
Parce que vous la partagez avec votre père.
Absolument, parce que c'est une langue que me parlait mon père lorsque j'étais enfant. Mon père était polyglotte et avait avait ce rituel comme ça. Il me réveillait la nuit, il me racontait des histoires, il me parlait dans ce langage. Et puis quand il a disparu, j'ai gardé quelques listes qu'il me faisait noter alors que je savais à peine écrire. Et c'est devenu la base étymologique du langage. Donc c'est aussi pour être un peu en rupture avec ça. Je pense qu'aujourd'hui j'ai plus l'âge de faire des enfants que.
Ça veut dire que le disque est plus féminin.
Me raconter mon père.
Pardon. Ça veut dire que le disque est plus féminin que paternel.
Est-ce que le disque il est plus je pense qu'il me ressemble. Donc c'est aussi une manière. Moi j'ai toujours assumé une forme de féminité aussi chez moi.
Dans mot la de voix, féminité, notamment. Thérèse Claire le déteste.
Ah oui, vous le détestez.
Non mais peut-être pour un homme ça va c'est Thérèse Claire. Non, ça passe pour un homme, c'est ça.
Je doute que M. Copé écoute France Culture.
Enfin, on ne sait jamais.
Mais vous illustrez magnifiquement la notion de genre, qui n'est peut-être pas le vôtre. Donc, nous sommes dans l'aléatoire, mais vous avez une voix magnifique.
Ouais, je vous remercie.
Et vous m'avez enchantée.
Mais écoutez, merci beaucoup.
19h20,
le rendez-vous Palais de Tokyo.
Non, la vieillesse n'est pas une pathologie, c'est un bel âge. Et c'est l'âge de toutes les libertés. Alors ça, tu vois, ça passe mal. Mais encore, je n'aurais pas parlé de clitoris.
Non, on en a déjà parlé du clitoris. Faites au engagement avec vous, Thérèse Claire, militante féministe, fondatrice de la Maison des Femmes de Montreuil et de la Maison des Baba Yaga. C'est une maison de retraite alternative, autogérée, solidaire, écologique et citoyenne. Alors, Thérèse Claire, vous avez une vie coupée en deux, on va dire, par les événements de mai 68 qui vous ont fait basculer dans le combat féministe. Ce parcours, vous l'aviez déjà raconté devant la caméra de Sébastien Lipschitz, c'était dans le documentaire Les Invisibles. Et aujourd'hui, vous êtes encore au centre d'un autre documentaire, Rebelle Ménopause, un portrait réalisé par Adèle Tully, qui sera projeté dans le cadre du Festival international de films de femmes de Créteil. On en entendait un court extrait en ouverture. Quand vous avez imaginé en 95 la maison des Baba Yaga à Montreuil, en fait, vous l'aviez réservé à des femmes, ce qui a d'ailleurs posé un peu problème pour les financements, puisque ce critère a été jugé discriminant au regard du droit. Vous dites que pour vous, que pour la féministe que vous êtes, la non-mixité s'imposait. En quoi mixité et féminisme s'excluent-ils pour vous ?
Je pense de plus en plus que la mixité n'a pas arrangé le sort des femmes. Je pense que la mixité a renforcé le pouvoir des dominants et a un peu effacé l'image des femmes, surtout les féministes. Donc je pense que la mixité, c'est trop tôt. Il faut que on je ne voudrais pas avoir un langage militaire en disant qu'il faut accumuler les munitions, mais je pense qu'il faut accumuler une vision des femmes qui manque profondément à notre planète. Et je pense que la mixité n'est pas la solution. Je reste farouchement attachée à la non-mixité. En plus, ce n'est pas une question de mixité de n'accueillir que les femmes à la maison des Baba Yaga. Elles ont 40% de moins de retraite que les hommes. Je connais des femmes qui sont dans une pauvreté absolue et c'est pour elles que j'ai réservé la maison des Baba Yaga.
Claire Maillot.
Thérèse Claire, vous parlez souvent de mai 68 comme une ligne de clivage dans votre existence, une forme de résurrection par le militantisme. Pourtant, alors même que vous étiez encore mariée, vous aviez été initiée au marxisme par l'Église. En quoi cet enseignement a-t-il préfiguré votre engagement futur auprès des féministes ?
Oui, bien sûr, parce que pendant très longtemps, j'ai vécu avec le capital dans une main et l'évangile de l'autre. Ça faisait relativement bon ménage. Et avoir une analyse marxiste du féminisme, ça a été difficile. Parce que ce qui a été magnifique dans le mouvement des femmes, au début, en 69-70, c'est que le corps est rentré en politique. Les femmes, elles ne s'occupaient pas beaucoup du 440, elles ne savaient même pas ce que c'était. Mais elles s'occupaient justement de leur corps, de toutes les viols, les violences, le plaisir, le non-plaisir. La meilleure arme des femmes en 69-70, ça a été la parole. C'était comme si les écluses de l'histoire s'ouvraient et que d'un seul coup, il y a eu des flots de paroles, des fleuves de paroles. Mais toute cette parole du corps a été magnifique et je vous dis, là, c'est rentré, ce corps est rentré en politique. Le désir est rentré en politique. Nous étions à l'époque des grandes reichiennes. William Reich m'avait ébloui. C'était un parfait machiste, mais ce qu'il dit est quand même encore bon. À chaque fois que les gamins ont 15 ans, je leur offre Écoute, petit homme. Et puis, il y a la psychologie de masse du fascisme que tout le monde devrait lire aujourd'hui.
Denis Garbrandt, quel a été votre mai 68 ?
Ah ben moi aussi, c'était une renaissance. Hein. Moi, j'avais 20 ans en 68, c'est quand même pas mal. Hein. Et je sortais d'un collège jésuite, donc c'était encore mieux.
Même parcours. Alors, en mai 68, Thérèse Claire, vous vendiez encore témoignage chrétien sur le boulevard Saint-Michel. Je me demande quelle a été la réaction de votre entourage, sachant que vous êtes issue de la moyenne bourgeoisie, plutôt conservatrice. Votre père était croix de feu et catholique.
Tout à fait. Mon entourage n'a pas compris, je pense. Le divorce, à l'époque, dans le monde bourgeois et catho, c'était une aventure. J'étais une aventurière. Mais j'avoue que c'était une période tellement magnifique où on vivait pleinement, où on se retrouvait avec les copines, où j'avais des belles robes missionnaires, et puis j'avais mes cheveux longs, et puis on se passait les cheveux au nez. Enfin, tout ça, c'est des détails du plaisir du corps absolument unique. Cette période a été unique. Nous avons eu 10 ans entre 69 et 79-80. Après, il y a eu le sida, ça a été moins drôle. Mais là, ça a été vraiment une résurrection. Et je n'en ai pas encore éclusé le bonheur.
Alors, je vais revenir dans le passé, parce qu'il y a un modèle féminin qui est particulièrement détonnant dans votre famille. C'est celle de votre grand-père, oui. Grand-mère, oui. Paternelle, enseignante, artiste, qui a fait 6 ans de prison. Elle avait engagé un tueur à gages pour tuer son mari, violent, qui refusait le divorce. Thomas Clair, d'ailleurs, à côté, en a fait un personnage de nouvelle dans L'homme qui tua Roland Barthes. Quelle place a-t-elle eu, cette femme condamnée, dans votre propre construction, Thérèse Claire ?
Elle a été très importante parce que je me souviens que mes enfants disaient « Comment elle était, bonne maman ?» On appelait bonne maman, c'était curieux. Et alors ma mère tendait un doigt vengeur en disant « Regardez votre mère !» Donc je me suis presque senti un devoir de ressembler à cette femme. Et je l'ai bien connue, c'était une femme remarquable, élevée aux filles de la Légion d'honneur, une très bonne pianiste, une femme littéraire, intellectuelle. Elle était géniale. Donc je ne sais pas si inconsciemment, cette espèce de personnage unique dans la famille m'a influencée probablement. Mais j'y pense très très souvent. Et à 86 ans, je vais bientôt la rejoindre. S'il y a une éternité, ça serait bien s'il y avait une éternité. Je vais peut-être faire une vraie connaissance avec la vraie parole. Parce que bien entendu, on l'avait interdite de sa vérité. Parce que dans les familles bourgeoises, on ne parlait pas. Alors de temps en temps, dans les cuisines, s'échappait un secret honteux, ce que j'appelle les cabinets merdeux, mais je m'aperçois aujourd'hui qu'à travers la parole des femmes, puisque je ne fréquente presque exclusivement que les femmes. Il y a toujours dans les familles la chose dont on ne parle pas et qui pourtant a aliéné toute la famille ou l'a libérée. Moi, ça m'a libérée.
Claire Maillot.
Oui, Thérèse Claire, dans le documentaire de Sébastien Lifshitz, hein, Les Invisibles, vous reveniez sur vos coming out. C'est à travers le mouvement des femmes, je crois, que vous découvrez les pratiques homosexuelles comme des pratiques politiques. À ce propos, je crois que vous citez Monique Wittig, qui était une théoricienne du féminisme, comme une référence pour vous.
Oui, bien sûr.
Comment articulait-elle homosexualité et féminisme ?
Bah, c'est presque logique. Vous savez, s'éloigner de l'homme jusque dans l'intime... c'est politique, c'est quand même rentrer en rupture dans une société, il faut bien dire, qui est d'abord hétérosexuelle. L'homosexualité passe toujours comme une anomalie, ça n'est jamais qu'une pratique, différente. Vous savez, avec un sexe, les bras à une bouche, on peut faire un certain nombre de choses, mais guère plus.
Vous avez longtemps milité au... MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement. Ouais, le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Quelles étaient les méthodes de combat de ce mouvement ?
Ben, les méthodes de combat, c'était de gagner la loi Veil. Merci Madame Veil, à chaque fois que je la rencontre dans les couloirs de la télé, je l'embrasse parce que c'est une femme que je vénère. Elle est malade, elle aussi, elle est vieille. Mais j'avoue que ça a été...
Elle a défilé contre le mariage gay, je crois, d'ailleurs.
Elle était contre le mariage gay ? Oh, alors là, vous défaites mon image.
Je suis là pour ça.
Non, mais la pratique de l'avortement était nécessaire. C'était la plus grosse cause de la mortalité entre 18 et 50 ans de femmes qui se faisaient avorter clandestinement avec l'aiguille à tricoter.
Vous-même, vous avez pratiqué des avortements clandestins.
Ah, oui, absolument, absolument. Et là, ça a été 18 mois, le temps que cette loi passe, qui ont été 18 mois... un peu parfait dans ma vie. C'est drôle de s'appuyer sur l'avortement, mais j'habitais un petit immeuble que j'habite toujours avec des copains gauchistes, des purs 68ards, et je me souviens qu'on était pauvres, comme d'habitude, dans la militance, on n'est jamais bien riche, et ils avaient acheté un moteur de frigidaire, un vieux moteur de frigidaire pour 85 francs anciens, et ils me l'avaient manipulé, ça, vive les hommes, là, les bricoleurs, et ils avaient même mis un manomètre, et je me suis retrouvée avec un aspirateur Karman magnifique, qui a bien fonctionné, et en même temps, c'était le bonheur, parce que ils attrapaient, j'avais encore mes deux filles, mes deux filles avaient 9 ans et 13 ans, 14 ans, et il y en avait un qui était professeur, il attrapait les gamines et il leur faisait faire leurs devoirs. Mais pendant 18 mois, on était un petit immeuble, ça a été une parfaite solidarité, fraternité, sororité, jusqu'à ma voisine en bas qui avait divorcé, qui pleurait son divorce, une brave femme qui me disait « Mais qu'est-ce qui se passe à la maison ?» Je lui ai dit « Je vais t'expliquer, Louisette. » Et elle m'a dit « Moi, j'ai avorté deux fois. » Et maintenant, je vous ferai des gâteaux. La gaieté vient du ventre, disait ma mère.
Denis Garabron, peut-être un regard sur Thérèse Claire, qui est au centre de plusieurs documentaires. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 sur elle. Vous qui êtes documentariste, vous comprenez, j'imagine, l'attention qu'on peut porter sur ce type de personnalité.
Ben, je ne sais pas, je vous découvre avec grand plaisir.
J'ai suivi la grève des femmes de ménage de l'hôtel là-bas. Ça a été une grève très très dure. Et avec des femmes qui... Moi, ça m'émeut parce que...
Là, vous faites référence au film qu'a tourné Denis Garabron pour Télévision d'éducation dans quelques minutes.
Oui. Les femmes qui n'avaient pas de moyens intellectuels, qui savaient tout juste lire et parler le français, et elles sont magnifiquement, elles se sont débrouillées magnifiquement.
Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'elles n'ont pas de moyens intellectuels. Si. Il y en a un certain nombre qui ne savent pas lire et écrire, mais les moyens intellectuels, je
ça, elles les avaient, c'est autre chose. La culture est autre chose que le moyen intellectuel. Claire Maillot.
Thérèse Claire, vous n'avez jamais été tentée de vous engager véritablement en politique ?
Non, je suis enchantée de ne jamais m'être engagée dans la politique politicienne. Je suis dans l'association depuis 63 ans. Je suis rentrée au mouvement de la paix en 1952, l'année de Dien Bien Phu. Et depuis, je n'ai jamais quitté l'association, parce que l'association peut être créative. Si on rentre dans un parti immédiatement, on est enfermé dans des modes de pensée. Alors que là, même ma maison des Baba Yaga, on a quitté la production, on a quitté la reproduction, on ne peut plus reproduire. On peut donc inventer sa vie. Et je trouve que c'est magnifique d'inventer sa vie à 86 ans.
Vous avez un tatouage, je crois, sur le poignet.
Oui, oui, oui.
C'est quoi ?
C'est le mouvement des femmes, c'est le signe de Vénus.
Ah bah oui,
en effet. C'est le symbole du mouvement des femmes.
Vous l'avez fait quand ?
Je l'ai fait il y a 4 ans environ. Mes petites filles m'ont dit, mais si, Thérèse, t'es engagée dans le mouvement des femmes, faut te tatouer, parce qu'elles sont tatouées. Bon. Alors donc, un peu entraînant les pieds, j'ai été me faire tatouer. Mais je ne regrette pas. Alors ce que je regrette, c'est qu'il aurait dû être plus grand avec le point tendu dedans. Parce que le véritable symbole des femmes, c'est le signe de Vénus avec le point tendu dedans. Mais d'autre part, maintenant, je pense qu'être heureux, c'est aussi une forme de résistance. C'est dire c'est possible. Et c'est possible à travers les luttes, les combats pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas refait le monde. Mais je suis tout à fait beaucoup plus pour la culture citoyenne, puisqu'on est à France Culture, que la culture. Oui, les grands auteurs, les grands musiciens, oui, j'en suis, j'en ai été. Mais je pense que la culture qui est faite pour changer le monde vous rend infiniment plus créatif, plus incisif. Incisive, pardon. Je parle féminin.
Le rendez-vous, la chronique.
Parfait ce dernier lapsus. La chronique tout de suite avec votre neveu qui est notre chroniqueur du vendredi, Thomas Clair, et ce depuis des années. Thomas Clair, ce soir, quelle revue ?
Oh, bah, j'ai pris Femme Actuelle, un discret clin d'œil, mais enfin ce n'est pas vraiment ma revue de chevet, mais si je ne vais prendre que mes revues de chevet, il n'y en aurait pas beaucoup. Oui, j'ai donc pris Femme Actuelle, le féminin le plus lu en France. C'est du moins ce qu'il proclame de lui-même en petites lettres noires en bas à gauche. Femme Actuelle a le triomphe modeste. Journal vendeur, donc, excusez-moi, j'ai pas les chiffres exacts, qui s'arrache au tarif imbattable de 1,50€. La qualité de son papier l'atteste, d'ailleurs. C'est un hebdomadaire qui existe en deux formats, une déclinaison fréquente pour les magazines féminins, allez savoir pourquoi. Moi j'ai pris le format poche, ou plutôt sac, de 23 x 18, parce que c'est une feuille qui n'a pas le culte des apparences, contrairement à ses concurrentes. Pour ce prix modique, il propose 90 pages bien remplies. Comme dirait un agent immobilier, il n'y a aucune place perdue dans ce magazine, qui, comme toutes les productions de masse, en donne au lecteur, ou plutôt à la lectrice, pour son argent. Les journaux élégants sont vides, les journaux pratiques sont saturés. En témoigne la couverture bordée de couleurs qui ne s'accordent pas toujours très bien ensemble, du rouge, du blanc, du jaune, du noir, du rose, du gris, plus le mauve de la robe. Il y a également des phrases d'encouragement, comme par exemple « Trouvez votre coiffure de la saison », ou bien des phrases d'assignation à résidence, « Les bons plans pour bien aménager sa cuisine ». Il y a également des encadrés et un cercle, qui est peut-être celui de l'enfer, puisqu'il concerne la question du couple, une question d'ailleurs brûlante. « Peut-on être heureuse avec un sexe addict ?» La réponse est oui.
Oui.
Notez cependant que la formulation francophone « Peut-on être heureuse avec un obsédé sexuel ?» n'appellerait peut-être pas la même réponse. Que trouve-t-on dans Femme Actuelle ? Eh bien, les rubriques parlent d'elles-mêmes. Spécial minceur, mode et beauté, psychosanté, maison cuisine. Bref, un programme épatant, comme on disait dans les années 50, qui brosse un portrait de femme tout droit sorti de ces années. Pourtant, Femme Actuelle est née en 1984. Elle ne fait pas du tout ses 30 ans. Mais c'est comme Pauline Carton, elle n'en fait pas non plus 25. Démasquons donc l'imposture idéologique. Femme Actuelle n'est qu'un leurre derrière lequel il convient de lire plutôt Femme Éternelle, ou du moins éternellement reliée par ses rédactrices au régime sec, shopping et cheveux, recettes plus fleurs et santé beauté. Une lecture un peu déprimante, donc, visiblement personne n'a lu ici Jacques Lacan. La femme n'existe pas, mais personne n'a lu non plus Colette, Marguerite Duras ou Virginie Despentes. L'agenda livre met en vedette, dans un geste suprêmement subversif, l'auteur de RER, Harlan Coben, parce que, je cite, sa mécanique est bien huilée. Eh bien, c'est tout le problème de Femme Actuelle, une mécanique tellement bien huilée qu'il n'y a aucune place pour un ailleurs imprévisible, pas le moindre centimètre carré d'imagination, de tentation féministe, de trouvailles politiques ou de frémissements de poésie. La seule question qui vaille, et si on brunchait gourmand. D'accord chérie, mais c'est toi qui t'en occupes. Quant à comment vivre avec un sexe addict, la page 48 a fait sauter mystérieusement le point d'interrogation, faisant basculer les choses dans la factualité la plus implacable. On donne même des conseils à ces dames pour sauver l'homme en question. Mais est-ce possible ? Pour le savoir, interrogeons les astres. Et bien pourtant, l'horoscope est fait par un homme qui nous dit, c'est un amour de bélier, les apparences prometteuses peuvent être aussi trompeuses. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas du magazine. Demain, c'est le 22 mars, début de mai 68. Comme disait De Gaulle à Bobonne, on va encore manger froid ce soir.
L'ouvreté l'envers les 13e mois. L'ouvreté diminuer la cadence des chambres.
19-20, le rendez-vous.
c'est sur France Culture.
Tous. Plateau Ciné-Lutte avec vous, Denis Gerbrand, documentariste, chef opérateur notamment de René Alliot ou Jean-Pierre Denis, figure majeure du documentaire depuis le milieu des années 80. Vous êtes l'invité du Festival du cinéma du réel au Centre Pompidou à Paris et vous y présentez On a grévé, dont on vient d'entendre un rapide extrait en ouverture de plateau. Dans ce film, vous suivez plusieurs femmes de chambre d'un hôtel première classe, d'un hôtel après discount, comme son nom ne l'indique pas, situé à une vingtaine de minutes des Champs-Élysées, c'est-à-dire au bord du périphérique, Benoît Lagane.
Oui, ces femmes d'origine étrangère, pour la plupart illettrées, font grève pour la première fois. Ce sont des employés payés à la tâche, c'est-à-dire à la chambre nettoyée, et non à l'heure, ce qui est illégal. Et vous avez suivi donc pendant un mois ces néo-grévistes qui inventent donc une façon bien à elles de chanter leurs revendications et leurs plaintes. On l'entendait à l'instant dans l'extrait. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, Denis Gerbrand, dans leur façon justement de s'approprier et personnaliser leur mouvement de grève ?
Elles sont simplement parties de leur culture. Et ce qu'il y avait très très beau, c'était le lien qu'elles pouvaient faire entre une culture traditionnelle, donc des chansons traditionnelles et actuelles. Hein, elles chantent beaucoup Abiba, et Abiba, c'est un tube malien, chanté par une enfant des rues, en fait. Hein, et elle le transforme en politique. C'est le glissement continuel qu'on entend dans le film. C'est comment elle chante, je pense que c'est plutôt du Bambara ou du Soninké, et elle passe ses revendications très, très, très politiques, très classiques, mais c'est d'abord l'exploitation des femmes dont elle parle. Hein. Donc c'est vraiment en femmes qu'elle parle. Et c'est assez beau de dire, parce que quand je leur demandais mais comment ça se passe à la maison, ton mari là, qu'est-ce qu'il dit ? Ah mais il est d'accord, il est complètement d'accord. Hein. En fait, il faut, on peut pas comprendre, je trouve, si on n'entend pas que la lutte des classes, elle s'est pas inventée là. Je veux dire que la mémoire de l'esclavage, c'est quelque chose qui est profondément inscrit chez les Africains, en particulier de la côte ouest. Il y a une tradition de résilience extrêmement forte et des combats et des grèves contre les puissances coloniales ont été héroïques et extrêmement puissantes. Et elles portent cette tradition. Donc c'est une première fois, mais voilà.
Denis Gerbrand, ce film s'inscrit vraiment dans une cinématographie que vous avez, c'est-à-dire de filmer les gens à des moments charnières de leur existence. En quoi, ici, on est face, pour ces femmes, à un moment charnière de leur existence ? C'est ce que vous aviez déclaré pour un précédent film qui s'appelait « Grand comme le monde » sur des adolescents d'Aubervilliers.
Oui, ben forcément, les moments charnières, c'est les moments où on s'interroge. Et donc, arriver à ce moment-là, c'est toujours arriver à un moment où la parole a un sens, a un rôle. Et donc, vous-même, vous pouvez avoir un rôle, non pas pour recueillir la parole, mais pour l'écouter, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Et alors, vous, quel a été votre propre moment charnière dans votre parcours, s'il y en a eu un ?
De cinéaste ?
Oui, ou d'homme ?
Ah bah d'homme 68. Hein.
Alors de cinéaste, là, ça a déjà été fait.
Aucun problème.
D'accord.
Deuxième naissance. Hein, bon voilà, c'est comme ça que quand on me demande ma date de naissance, je dis souvent 68.
Et alors, moment charnière de cinéaste.
De cinéaste, alors il y a la découverte de Chronique d'un été de Jean Rouge, qui est très fondateur pour moi. Après, il y a mes premiers films, évidemment. Il y a le film qui me pose réellement dans ma manière de filmer, qui est La vie. Tout de suite derrière, La vie est immense, mais plus classique. Puis après, c'est des films qui creusent le sillon. Voilà.
Benoît Lagane.
Alors, votre dernier film, On a grévé, le titre reprend la formulation d'une des grévistes qui vous déclare être fière d'avoir grévé. Alors, ce n'est pas le seul néologisme que ces femmes de chambre inventent. Une femme de chambre gréviste, on l'entendait tout à l'heure, qualifie le groupe hôtelier d'exploitateur. En quoi l'utilisation de ces néologismes a-t-elle pu influencer votre propre façon de monter le film ? Je dis ça parce que je sais que depuis vos débuts, vous avez pris l'habitude de trouver le film au montage. Et on a là bien l'impression que c'est ça qui se joue aussi dans ce film-là.
Je ne le dirais pas comme ça. Quand on filme, c'est un geste et le montage consiste à faire sortir le geste et à le faire sortir en particulier de, des idées qu'on avait dans la tête au début, de le faire et de le rendre. Donc, je ne sais pas si ce néologisme a une notion, était une notion très importante pour moi, mais par contre, effectivement, comment ce groupe se constitue, comment une parole individuelle peut sortir du collectif, ce qui était la chose la plus compliquée pour chaque femme qui parlait, c'était de dire « je », quand elle, alors qu'elle s'appuyait sur un « nous », bien sûr. C'est tout ça qui m'a plutôt guidé dans le film et qui m'a amené à un montage assez long, assez compliqué, à multiples reprises, mais c'est la liberté de ceux qui travaillent tout seuls dans leur bureau et voilà, il n'y a personne qui leur demande quoi que ce soit.
Alors, ces femmes sont aidées dans leur combat par un syndicaliste de la CGT et ce militant syndical vous prend à partie à un moment donné du film. C'est très intéressant. Il est en train d'expliquer aux grévistes les bénéfices que le groupe hôtelier fait sur leur dos. Et il dit alors, en regardant la caméra, c'est-à-dire en vous regardant, on a fait un petit calcul avec Denis. C'est vous, Denis Garbrandt. Qu'est-ce que cela dit de votre statut ? Observateur et acteur ?
Oui, bien sûr. Enfin, on ne rentre pas dans la réalité par-dessus. On est dedans et donc on travaille avec les gens et donc on est évidemment partie prenante. Et donc on va fouiller les questions qu'on se pose avec eux. Je voudrais préciser quand même sur ce syndicaliste. Ce syndicat, c'est un syndicat qui est affilié à la CGT. Mais les femmes de chambre dépendent en fait de trois syndicats différents de la CGT. Le commerce, les ports et docks et le syndicat créé par cet homme, qui, est donc en, qui peut être en conflit avec la centrale.
Vous-même, Thérèse Claire, vous étiez à un moment donné affiliée, je crois, à la CGT, avec un combat féministe à l'intérieur. Comment ça a été reçu par la CGT, ce combat féministe ?
Ça a été assez épique parce que j'ai été 8 ans à la CGT, parce que je ne savais rien faire, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Par contre, j'étais assez douée pour la parole. Donc, je savais vendre. J'ai vendu de tout, y compris les moteurs de bateau, je ne comprenais rien. Mais à la CGT, donc, très vite, j'ai été dans ma partie qui était les VRP. J'ai été une représentante de commerce. Mais j'y ai trouvé un machisme dont je n'aurais pas cru capable un syndicaliste qui avait quand même, je pense, une idée assez évidente d'une position de classe. Donc j'ai très très vite compris, parce que c'était après 68, que le capitalisme était un très très grand système d'exploitation, mais il y en avait un deuxième dont personne ne parlait encore, un peu les féministes, ça s'appelait le patriarcat. Parce que le patriarcat comme exploitation des femmes, j'aime mieux vous dire qu'il n'est pas triste. Enfin si, il est extrêmement triste, parce que c'est quand même la moitié du monde qui est exploité honteusement. Au Festival de Créteil, hier, j'ai encore vu un film indien sur l'enfermement des femmes. Dès qu'elles sont pubères, on les enferme, mais on les enferme dans une pièce dont elles ne peuvent pas sortir. Il faut qu'elles se marient vierges. Oh, la virginité.
Denis Garbrandt, vous filmez donc ces femmes en grève et leur soutien, alors les syndicalistes bien évidemment, une députée, un journaliste, jamais les responsables de l'hôtel. Et un choix qui me rappelle ce que vous aviez déclaré pour un autre film, je crois que c'était pour La République Marseille, vous disiez « Mettre des gens qui défendent deux opinions contraires face à face dans le montage, c'est un processus de dossier ». Je me demandais qu'est-ce qui vous déplaisait justement dans ce processus de dossier pour ne pas filmer là par exemple les responsables de l'hôtel.
C'est des paroles qui n'ont rien à voir. Donc vous ne pouvez pas faire semblant d'opposer des paroles qui sont sur des registres complètement différents. Les femmes parlent d'elles, elles parlent de leur lutte, de leur quotidien. De quoi va me parler la direction ? C'était assez étonnant d'ailleurs parce que j'étais complètement invisible aux yeux de la direction. On voit régulièrement dans le film le directeur passer comme ça et c'est comme si je n'existais pas. Donc c'était très pratique pour moi, on est resté dans cette position.
En sortant de l'IDEC, Denis Garbrandt, qui est l'école de cinéma parisienne ancêtre de la FEMIS, en juin 72, vous participez à la création d'un mouvement qui s'appelait Ciné-Lutte, aux côtés entre autres de Richard Coppens, mais aussi de Mireille Abramovici. Or, vous en serez exclu, j'ai pu lire, pour anarchisme petit bourgeois. Qu'est-ce qu'on vous reprochait véritablement ? C'est quand même dingue de penser que vous avez été, vous qui êtes né en 68, donc on vous reproche d'être anarchiste petit bourgeois.
Je crois qu'on est assez d'accord sur pas forcément les questions machiste, mais sur un certain fonctionnement de chef, un certain fonctionnement... d'une certaine manière, j'ai jamais fait de film militant, j'ai jamais fait que des films politiques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'agissait de faire des films militants. Et là, c'était pas vraiment mon problème, quoi.
Benoît Lagan, dernière question.
Oui, vous êtes programme au Festival du cinéma du réel. Or, vous avez aussi longtemps été brouillé avec le Festival du film du réel à la suite de leur refus de projeter votre premier film, Printemps de Square, qui avait pourtant beaucoup plu en cours de Jean Rouch, je crois. Pour quelles raisons vos premiers films n'accrochaient pas avec ce festival alors qu'aujourd'hui, vous y êtes bien installé?
Ah oui, non, mais je vais faire un appel au Festival du réel. C'est qu'à ce moment-là, ils m'ont dit, mais vous êtes un grand cinéaste, prometteur parce que j'étais jeune, donc on fera une rétrospective. Alors j'attends la rétrospective, j'espère que Maria Bonsanti va m'entendre. Qu'est-ce qu'on me reprochait? Je sais pas, vous savez, ce genre de questions vous les posez à ceux qui reprochent pas à ceux. Je crois que je fais un cinéma assez simple et qui se pose pas comme au cinéma d'auteur. Comme ça, avec un grand A. Et alors, ils disent, mais c'est quoi ce mec-là? Il prend sa caméra, puis il va juste filmer les gens pour discuter avec eux. Ça fait un peu désordre, quoi.
Depuis le temps, vous avez donné raison. Et le Festival du Rêve vous accueille comme une sorte d'invité régulier, très récurrent dans ce festival.
Non, pas du tout, mais Javier Paquer-Comine m'avait invité hors compétition pour présenter un film qui était un peu compliqué puisque c'était 7 films, ça durait 6 heures, donc je comprends que ça soit hors compétition, mais effectivement j'étais tricard pendant un bon bout de temps à ce festival, mais voilà, au bout d'un moment on arrête aussi, donc
t'as passé.
On passe à autre chose, voilà.
Écoute, petit homme, on peut donc inventer sa vie.
Mais comment ça se passe à la maison, ton mari, là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais il est d'accord.
Et je trouve que c'est magnifique d'inventer sa vie à 86 ans.
Merci à nos invités Thérèse Claire, Rebelle Ménopause, et dans le cadre du Festival international de films de femmes de Créteil qui se tient jusqu'à dimanche. On pourra vous voir danser avec les Baba Yaga dans le spectacle de clôture, L'enfant sous les plages du temps de la chorégraphe Karine Saporta. Denis Gerbrandt, on a grévé. C'est au Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou à Paris, un festival qui se tient jusqu'au 30 mars. Et je rappelle que Nosfell, son album Amour Massif, est paru sous le label Licadé. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
C'est pas grave si on finit pas.
Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi.
Demain, il faudra attendre lundi pour une émission de Toutes nos forces avec Jacques Gamblin et Michel Villermoz. La session, ce sera au Tiger Mountain.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission en direct que vous pouvez réécouter en ligne ou podcaster sur le site France Culture. Une émission préparée ce soir par Benoît Lagan, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Marie Pio, Aïssette Wendoy et Claire Maillot. À la prise de son, Stéphane Foulon, Laurent César et Hervé Dubreuil. Chargé de production, Guillaume Rialan. J'allais oublier la chronique de Thomas Clerc et à la réalisation, Thomas Beau.
Vous n'avez absolument rien oublié, il est 19h55. Vous écoutez France Culture, c'est bien? Merci à toute l'équipe du Palais Tokyo qui nous accueille ici chaque vendredi. Donc rendez-vous vendredi prochain. Merci au public qui nous a accompagnés pour cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. C'est Robin Renucci qui lit Villard Vitesse, les 2 V de Jacques Ralit. Alors bonne soirée à tous.